RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h à Paris et à Munich.
Nicolas Brousse.
L'Allemagne accueille une conférence sur la sécurité au cours de laquelle Volodymyr Zelensky a appelé ses alliés européens au sursaut face à la Russie. Le président ukrainien exhorte les Européens à créer une armée commune pour éviter un accord forgé par les Américains dans le dos de l'Ukraine. Un nouvel échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens ce samedi, avec une mise en scène, cette fois côté israélien, qui suscite la polémique. Nous serons en direct de Jérusalem. Il n'était pas forcément le favori, mais il est l'élu aujourd'hui. Mahmoud Ali Youssouf, ancien ministre des Affaires étrangères de Djibouti, va prendre la tête de l'Union africaine. Dans l'est de la RDC, le groupe AFC M23 associé aux militaires rwandais progresse dans le sud Kivu. Des tirs sporadiques étaient encore entendus dans la journée à travers plusieurs quartiers de Bukavu, la capitale provinciale. Le secrétaire général de l'ONU déclare qu'il faut éviter à tout prix une escalade régionale. Message d'Antonio Guterres à l'ouverture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en l'absence du président RD congolais qui a annulé sa participation. Si les membres de l'UA sont réunis ce week-end, c'est aussi pour désigner le successeur de Moussa Faki Mahamat comme président de la commission après deux mandats de 4 ans. Et c'est le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf qui a été élu. Il a obtenu au 7e tour les 33 voix requises. Cet ancien ministre des Affaires étrangères de ce petit état de la Corne de l'Afrique a notamment battu le vétéran de l'opposition kenyane Raila Odinga, qui faisait pourtant figure de favori. Florence Maurice, envoyée spéciale des RFI à ce sommet, nous raconte le déroulé de ce vote.
Le suspense a duré jusqu'au bout et c'est vers 18h que les applaudissements ont retenti sur cette nouvelle, l'élection du candidat djiboutien avec 33 voix sur 49. Il obtient tout juste le nombre de votes nécessaires pour être élu après 7 tours de scrutin et une bataille serrée. Au premier tour, c'est le Kenyan Raila Odinga qui était en tête avec 20 voix, mais progressivement, le candidat djiboutien est remonté, bénéficiant notamment du report des voix du candidat malgache éliminé après le troisième tour. Finalement, rétrogradé deuxième à la fin du sixième tour de vote, Raila Odinga a dû se retirer comme le prévoient les statuts de l'Union africaine. Le candidat se présentait pourtant comme le favori. Il pouvait notamment compter sur le soutien de l'EAC et sa renommée à l'international, mais il a certainement pâti de son âge, 80 ans. À l'inverse, Mahmoud Ali Youssouf est relativement jeune, 59 ans. Il est familier des arcanes de l'Union africaine qu'il pratique depuis 20 ans. En tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, il parle aussi 3 langues, anglais, français, arabe. C'est un jour historique pour Djibouti, se félicite ce soir Oumed Daoud Abdallah, porte-parole de la majorité présidentielle de Djibouti. Le peuple djiboutien exulte, dit-il.
Afrique Soir, première édition à 18h30 TU, 21h30 heure d'Addis Abeba, d'où nous parlait notre envoyé spécial Florence Maurice. Nouvelle étape finalement ce samedi dans l'accord entre le Hamas et Israël, échange de 3 otages israéliens contre 369 détenus palestiniens. Finalement, car la trêve a failli voler en éclats cette semaine suite à des accusations de violation de l'accord venues de part et d'autre. Sami Boukhalifa, vous êtes en direct de Jérusalem. Certains détenus palestiniens étaient habillés en survêtements floqués d'une étoile de David. Des photos ont été partagées par la radio publique israélienne et forcément, Sami, elles font polémique.
Oui, la symbolique est tragique. Elle renvoie aux pires heures de l'histoire de l'humanité et à ces juifs dans les camps de concentration nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. L'administration pénitentiaire israélienne a publié 2 photos. Sur la première, une dizaine de détenus palestiniens à genoux portant ses survêtements avec une étoile de David sur le torse et sur le dos et cette inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Sur la seconde photo, on aperçoit cette fois-ci derrière des barreaux un groupe important de prisonniers palestiniens vêtus de ce même habit. Certains sont pieds nus. Sur les réseaux sociaux, un journaliste israélien dénonce ces clichés. « Nous ressemblons de plus en plus à nos ennemis », écrit-il. Israël avait fermement condamné les mises en scène et la propagande du Hamas lors de cérémonies orchestrées chaque semaine pour la libération d'otages israéliens. Le Club des prisonniers palestiniens, une organisation civile de défense des droits des prisonniers écroués en Israël, dénonce au micro de RFI ces photographies. S'il y a bien un peuple qui peut être sensible à ce genre de symbole, c'est le peuple juif. Et Israël choisit de prendre, de reprendre reprendre les méthodes des fascistes, c'est à la fois criminel, raciste et idiot, explique Qadoura Feres, porte-parole du club des prisonniers palestiniens.
Sami Boukhalifa, envoyé spécial permanent des RFI en direct de Jérusalem. Ce soir, Marco Rubio, le nouveau secrétaire d'État américain, est attendu en Israël pour rencontrer le Premier ministre notamment. Les médiateurs espèrent entamer la semaine prochaine à Doha des pourparlers pour la deuxième phase de l'accord avec le Hamas. Cette deuxième phase vise à ramener tous les otages en Israël et à mettre fin à la guerre avant une phase finale dédiée à la reconstruction du territoire de Gaza. Un immense chantier estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. En attendant, Munich accueille une conférence sur la sécurité pendant laquelle le président ukrainien appelle les Européens à un sursaut face à la Russie, mais aussi face à Donald Trump qui n'aime pas les amis faibles et respecte la force, selon Volodymyr Zelensky. L'Europe, dit-il, ne peut plus prendre pour acquis la protection américaine. C'est aussi ce que pense Volodymyr Kagoutsiak, vice-président du Congrès mondial des Ukrainiens, qui participait à un rassemblement de plusieurs milliers d'entre eux dans la capitale de la Bavière.
Aujourd'hui, avec Paul Groth, nous sommes ici à Munich pour à la fois soutenir la manifestation ukrainienne ici, à la fois soutenir donc toute la délégation ukrainienne qui est sur place, et à la fois pour soutenir le discours de Volodymyr Zelensky qui parle aujourd'hui une fois de plus en fait de la création des forces armées européennes qui pourront faire face à la Russie et qui pourront être la preuve que la Russie n'ira pas plus loin que l'Ukraine.
Propos recueillis par l'envoyé spécial de la rédaction ukrainienne de Radio France Internationale, Ksenia Zornoklei. Et alors que le chef de l'État ukrainien vient d'annoncer qu'il avait refusé un accord avec le président américain sur les ressources en minerais de son pays, faute de garanties suffisantes pour la sécurité, dès hier vendredi, lors de cette même conférence de Munich sur la sécurité, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé une nouvelle mesure pour booster les dépenses militaires du continent, notamment pour soutenir l'Ukraine. Justine Fontaine, les investissements dans la défense ne seraient ainsi plus soumis aux règles budgétaires de l'UE.
Si les États membres s'endettent pour acheter des armes, financer leur armée ou fournir une aide militaire à l'Ukraine, ils pourraient activer une clause spéciale pour éviter que ces investissements soient pris en compte dans le calcul de leur déficit public, ce qui leur permettrait donc de dépenser plus, sans dépasser officiellement le fameux seuil des 3% de déficit fixé par l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a justifié ainsi à Munich ce vendredi.
Nous avons besoin d'augmenter les dépenses de l'Europe en matière de défense. Actuellement, c'est 2% du PIB des 27, mais une nouvelle hausse considérable est nécessaire, car passer de 2% du PIB à plus de 3% signifie investir des centaines de milliards d'euros supplémentaires chaque année.
Alors que les États-Unis de Donald Trump pourraient réduire considérablement leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, l'Italie a rapidement salué la proposition. Le président français Emmanuel Macron a estimé lui aussi qu'il faut réformer les règles budgétaires européennes. Paris et Rome font partie des plus endettés du continent et souhaitent depuis longtemps, avec Madrid notamment, un assouplissement de ces règles. Plus étonnant, en revanche, alors que l'Allemagne défend habituellement la rigueur budgétaire, le chancelier Olaf Scholz s'est dit tout à l'heure certain, à une semaine des élections fédérales dans son pays, que le futur gouvernement sera favorable à une exception budgétaire pour les dépenses militaires.
Justine Fontaine, il est 9h08 à Los Angeles, la cité des anges qui n'est décidément pas bénie des dieux en ce moment. Un mois après les pires incendies de son histoire, la mégapole a subi ces derniers jours d'importantes coulées de boue. Une forte tempête a en effet provoqué des pluies intenses en peu de temps, ce qui a emporté une partie des sols, fragilisés déjà par les feux, et charrié de nombreux débris, Lucille Gimbert.
Les sacs de sable et les blocs de béton installés par les autorités locales pour limiter l'érosion n'auront pas suffi. À cause des récents incendies, beaucoup de terrains du sud de la Californie sont désormais sans arbres. Normalement, la végétation maintient le sol en place. Lorsque la pluie s'est déversée sur Los Angeles et ses alentours, jusqu'à 7 cm dans certaines zones de la mégalopole, l'eau n'a rencontré que très peu d'obstacles et l'a donc ruisselé plus vite et emporté avec elle le sol à nu. Des rochers, de nombreux débris d'arbres et des cendres laissées au sol par les feux de janvier ont aussi été emportées. Plusieurs routes ont été bloquées dans la région par ces coulées de boue, des axes inondés et jonchés de débris, notamment à Pacific Palisades et à Altadena, déjà sinistrés par les incendies. Et même si la pluie a cessé, les autorités craignent encore des glissements de terrain. Après 8 mois de sécheresse, la pluie était attendue avec impatience en Californie. Mais, et c'est une autre conséquence du changement climatique, elle est arrivé en trop grande quantité et en trop peu de temps.
Lucille Gimbert du service environnement d'RFI. L'image de la Rome éternelle traînée dans la boue, littéralement des pluies abondantes, là aussi ont apporté de la boue dans un aqueduc de la capitale italienne. La boue qui s'est déversée dans plusieurs fontaines emblématiques qui venaient pourtant d'être récemment et longuement nettoyées. Tout de suite, l'atelier politique avec Frédéric Rivière.